Merci d'écouter RFI. Il est 4h à Paris, 3h en temps universel.
Mathis Limano.
Alors qu'il tient en ce moment son discours de politique générale devant le Congrès américain, Donald Trump poursuit sa guerre commerciale. La Chine, le Canada et le Mexique dans le viseur du président américain. Vive inquiétude côté mexicain. Le pays exporte 80% de ses produits aux États-Unis. Mexico dit préparer une réponse. Donald Trump toujours avec qui Volodymyr Zelensky veut arranger les choses après le clash à la Maison-Blanche et le gel de l'aide américaine. Le président ukrainien a proposé une trêve à la Russie dans les airs et les mers. Ce jeudi, les Européens se rassemblent pour examiner un projet de réarmement de l'Europe. Et puis en France, le procès de Joël Lescouarnec suit son cours. Ce mardi, la cour criminelle de Vannes a épluché les carnets de l'ex-chirurgien accusé par près de 300 patients de viol et viol aggravé. Il a donc mis ses menaces à exécution. Ce mardi, Donald Trump a décrété les redoutés droits de douane contre la Chine, le Canada et le Mexique. Un vrai coup dur côté mexicain. 80% des exportations du pays vont vers les États-Unis. Incompréhension également. Depuis des mois, le pays affiche de bons résultats dans la lutte contre le narcotrafic. C'était une exigence de Donald Trump. Mais voilà, ça n'aura pas suffi. Ces droits de douane marquent la fin de 3 décennies de libre-échange sur le continent nord-américain. Loin d'être l'ombre de son prédécesseur, la présidente mexicaine fait face à cette nouvelle guerre commerciale. Gwendolina Duval.
La présidente Claudia Sheinbaum critique une décision unilatérale de la part des États-Unis, qu'elle qualifie d'offensive et diffamatoire. Son gouvernement prépare une réponse.
Le Mexique doit être respecté. Nous sommes des nations égales. Nous avons décidé de prendre des mesures douanières et non douanières que j'annoncerai en place publique ce dimanche.
Dans les médias locaux, on souligne que la réponse du Mexique est moins virulente que celle du Canada ou de la Chine. Tandis que des organisations du secteur privé ont affiché leur soutien au gouvernement, la présidente Sheinbaum, qui n'est parvenue qu'à retarder la mise en place de ses frais de douane, suit sa stratégie de garder la tête froide et prétend toujours chercher la voie d'une négociation.
Nous ne voulons pas entrer dans une guerre commerciale. Cette décision affecte les gens. Je convoque tous les Mexicains et toutes les Mexicaines à faire face à ce défi qui nous est présenté.
Forte d'un soutien qui dépasse les 80%, encore au-delà de son prédécesseur Andrés Manuel López Obrador, la présidente du Mexique appelle à l'unité des Mexicains et assure que l'économie du pays tiendra le coup. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Le Canada, lui aussi visé par ses droits de douane, accuse Donald Trump de vouloir annexer le pays en affaiblissant son économie. À l'image du Canada, la Chine taxe en représailles les produits américains. Pékin, face à ses restrictions, dit vouloir faire de la demande intérieure le moteur de sa croissance. Par ailleurs, Donald Trump s'exprime en ce moment devant le Congrès américain. Premier discours de son mandat devant les deux chambres. Après s'être félicité de sa victoire à la présidentielle et un tacle au passage à Joe Biden, Donald Trump s'est lancé dans une longue tirade anti-woke visant notamment les athlètes transgenres. Insistant sur le retour du rêve américain, il a promis une baisse des taux d'intérêt et du chômage. Un discours marqué dès le début par l'expulsion d'un élu démocrate sorti sous les huées du camp adverse. Donald Trump continue de s'exprimer. Pour l'instant, pas un mot sur la politique étrangère des États-Unis. RFI à 5h04. À Kiev, après la suspension justement de l'aide militaire américaine, l'Ukraine au cœur d'un sommet européen jeudi. C'est dans ce contexte que Viktor Orban est attendu aujourd'hui à Paris. À la veille du sommet, Emmanuel Macron va tenter de convaincre le premier ministre hongrois le plus pro-russe des Européens de ne pas saboter ce sommet au cours duquel le projet réarmer l'Europe d'un montant de 800 milliards d'euros doit être discuté. Florence Labruyère.
Depuis l'entrée en fonction de son ami Donald Trump, Viktor Orban applaudit tous les faits et gestes du locataire de la Maison-Blanche. Orban a même pris le parti de Donald Trump après le virulent échange entre le président américain et Volodymyr Zelensky. Comme son mentor américain, le premier ministre hongrois, qui a bâti un régime autoritaire et qui cultive sa proximité avec tous les autocrates, s'aligne de plus en plus sur la politique du Kremlin. Orban répète que l'Ukraine devrait capituler et il durcit son discours. Tous les jours, les médias pro-Orban répandent de fausses nouvelles sur l'Ukraine, accusant par exemple les services secrets de Kiev d'avoir financé des ONG hongroises qui critiquent le pouvoir à Budapest. Viktor Orban déplore l'attitude de ses alliés européens, qui, selon lui, veulent la guerre. Il menace le sommet européen de blocage. Persuadé que le succès est du côté de Donald Trump et qu'il pourra récolter des avantages en prenant le parti du président américain, Viktor Orban s'éloigne de plus en plus de la planète Europe. Florence Laboyère, Budapest, RFI.
Et de son côté, Friedrich Merz, le futur chancelier allemand, prévoit une aide supplémentaire de 3 milliards d'euros pour Kiev, ainsi que des investissements massifs dans la défense allemande. En RDC, la tournée des religieux se poursuit. Après avoir multiplié les rencontres avec les acteurs politiques du pays à Kinshasa, Lubumbashi ou encore en Europe, les représentants des églises catholiques et protestantes ont été reçus à Kampala par le président ougandais. Objectif, promouvoir un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Les précisions, signé Paul Lorgerie.
La réunion s'est globalement bien passée, confie le pasteur Eric Tsenga, porte-parole de l'église du Christ au Congo. Selon lui, le président ougandais Yoweri Museveni, qui a pris l'engagement de soutenir la démarche des religieux, a également tenu des propos rassurants sur la présence de son armée sur le territoire congolais.
Il a précisé que tout ce qui s'est fait, c'est en collaboration avec le gouvernement de Kinshasa. On a aussi froidement abordé la question de la balkanisation, qui dérange un peu l'opinion congolaise. La DINA ne sera jamais l'écart. Si nous voulons aider les Congos, il faut aider les Congos à être gérés par les Congolais et à mettre fin au conflit.
Autre rencontre d'importance pour les représentants des églises congolaises, celle avec, je cite, des exilés congolais en Ouganda. Parmi eux, Thomas Lubanga, ancien chef de guerre soupçonné d'entretenir des liens avec l'AFC M23 selon un rapport des Nations Unies et aujourd'hui à la tête de la Convention pour la Révolution Populaire.
Il y a Thomas Lubanga qui s'est présenté comme le président de ce groupe. C'est un peu un groupe mixte. Nous y trouvons des députés provinciaux, les médecins, des avocats, des activistes et même des militaires qui sont en exil.
Avant de remettre leur rapport, les religieux espèrent rencontrer les présidents João Lourenço en sa qualité de président de l'Union africaine, ainsi qu'Emerson Mnangagwa du Zimbabwe et Évariste Ndayishimiye du Burundi.
Paul Lorgerie, les Nations Unies soutiennent fermement le plan arabe pour reconstruire Gaza, plan présenté ce mardi par l'Égypte et adopté par les dirigeants arabes réunis en sommet extraordinaire au Caire, présenté comme une alternative au plan américain prévoyant l'expulsion des Gazaouis. D'un montant de 53 milliards de dollars, il prévoit la reconstruction de l'enclave en 5 ans, d'abord administrée par des technocrates palestiniens. L'autorité palestinienne en reprendrait le contrôle après, excluant ainsi le Hamas de toute responsabilité. En Cisjordanie occupée, l'armée israélienne dit avoir tué 3 Palestiniens, dont un chef local du Hamas à Jenin, alors qu'Israël a annoncé étendre son offensive à de nouveaux quartiers de la ville du nord de Cisjordanie. En France, l'interrogatoire de Joël Le Skouarnec se poursuit devant la cour criminelle de Vannes. L'ex-chirurgien est jugé pour près de 300 agressions sexuelles et viols aggravés, essentiellement sur des patients mineurs. Pendant de longues heures ce mardi, il a été confronté par la présidente à ses propres écrits et contenus qui documentent des décennies de crimes et de délits. Laura Martel.
Joël Le Skouarnec est un collectionneur de timbres, de livres, d'opéras. J'aimais l'idée de les posséder tous, de pouvoir en disposer et je faisais des listes. Avec la même minutie, l'ex-chirurgien a consigné durant plus de 30 ans les agressions sexuelles et les viols dans ses carnets intimes, mais aussi ses déviances au travers de dizaines de milliers de récits, photos, vidéos. Joël Le Skouarnec détaille peu, je n'en ai pas le souvenir et sa formule fétiche, mais il reconnaît beaucoup. La consultation de revues, puis de sites pédopornographiques, les photos volées de culottes de fillettes lors des kermesses d'école, son obsession pour les fluides corporels, ses 70 poupées utilisées comme objets sexuels, sa compilation d'images violentes, les plus gores. Puis vient une autre liste, interminable de mots un peu savants qui cachent beaucoup de noirceur. Voyeurisme, exhibitionnisme, sadisme, scatophilie, zoophilie. C'était la surenchère, je n'avais aucun frein. Plus c'était ignoble, plus c'était sordide, plus je m'y complaisais, admet Joël Le Skouarnec. Face à la présidente qui applique à cet accusé tout en contrôle la stratégie de l'usure, les questions qui reviennent, répétées, reformulées. L'audience n'en est que plus étouffante, mais la méthode paie. L'ex-chirurgien reconnaît chaque jour un peu plus. Ce mardi, il a révélé pour la première fois avoir utilisé la soumission chimique pour abuser une fillette de son entourage.
Laura Martel. Et puis en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, c'est comme si c'était fait pour Arsenal après son carton 7-1 contre le PSV. Les Lillois, eux, font une bonne opération en Allemagne, un partout contre Dortmund, tandis que dans le derby madrilène, le Real prend une option victoire 2-1 sur l'Atlético. Ce mercredi, suite et fin de ces huitièmes allées avec le choc PSG-Liverpool. RFI, il est 4h10 à Paris.